Bonjour, bonjour à tous, mardi 6 mars 2018, il est 9h, bienvenue aux voix de service, c'est Louis de Bernis qui passe seul aujourd'hui dans le studio, puisque je suis accompagné de Jean-Charles Algan. Bonjour Jean-Charles, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très très bien, merci.
Excellent, nous sommes deux pour vous faire vivre pendant une heure les actualités sur différents thèmes. Quels sont vos sujets aujourd'hui Jean-Charles ?
Alors, aujourd'hui, ça va être sur le thème du voyage, un hiver en Algarve. Et puis ensuite, sur le thème de l'immobilier maison, les copropriétés gagnent les régions. Et ensuite, en alimentation, je vais parler du chocolat rose.
Excellent, des sujets variés pour ma part. Nous donnerons dans l'étonnant le détonnant, comme d'habitude. Nous parlerons notamment des dangers de plaisanter au sujet du Nil, également de mystérieuses cultures de chameaux dans le désert saoudien, ou enfin, devenir une célébrité à 93 ans. C'est possible, c'est dans quelques instants dans les voies de service. L'humour, parlons-en l'humour, et parfois il faut s'en méfier, faire attention parce que ça peut mener en prison tout simplement. Égypte, ça se passe en Égypte, 6 mois de prison pour une chanteuse ayant plaisanté sur le Nil. La chanteuse de pop égyptienne Shirin Abdel Wahab a été condamnée mardi à 6 mois de prison pour avoir dénigré le Nil en plaisantant sur la qualité de son eau, selon des sources judiciaires. Populaire dans le monde arabe, cette chanteuse à succès a écopé de cette peine prononcée par un tribunal du Caire pour avoir, je cite, « diffusé de fausses informations et troublé l'ordre public ». La peine de prison prononcée est suspensive le temps de l'appel, moyennant le versement tout de même d'une caution de 5000 livres égyptiennes, soit environ $300 canadiens. Il y a quelques mois, des internautes avaient partagé sur les réseaux sociaux une vidéo d'un concert aux Émirats Arabes Unis où un fan demandait à la star de chanter « Avez-vous bu l'eau du Nil ?» l'un de ses succès. « Tu attraperais la bilharziose » avait-elle répondu en référence à une maladie provoquée par des vers parasites présents dans certaines eaux douces. « Bois de l'évian, c'est mieux » avait-elle plaisanté. Le Nil reste un sujet sensible en Égypte, le pays craignant pour son approvisionnement en eau depuis la construction par l'Éthiopie du Grand Barrage. Les discussions entre les deux pays ainsi que le Soudan piétinent. Le syndicat des musiciens avait annoncé qu'il interdirait à la chanteuse de se produire sur scène en Égypte. Pendant la polémique, Shirin Abdel Wahab avait alors présenté ses excuses. Populaire mais parfois controversée, elle a été membre du jury de la version arabe du célèbre télécrochet La Voix. Par ailleurs, un autre tribunal du Caire a condamné mardi une chanteuse peu connue, appelée Leila Amer, à 2 ans de prison pour incitation à la débauche à cause d'un vidéoclip comprenant des scènes à connotation sexuelle, selon un responsable judiciaire. Que ce soit donc avec les mœurs ou avec l'eau, il faut donc se méfier à ce qu'on dit et à ce qu'on fait au pays des pharaons. همتيني وقلتي داير رايح هي قلبي هي عادي نتوحش في خدي نغلها ضربة واحدة نقطع خبرها شو سرالي وش سرالها هي قلبي. C'est donc un extrait d'une chanson de cette chanteuse dont Louis nous parlait, Shirin Abdel Wahab.
Et moi, je vais vous parler de « Un hiver en Algarve », publié dans la presse et signé Nathalie Morissette. Pour varier les plaisirs ou même échapper au virus Zika, de plus en plus de vacanciers québécois en quête de soleil hivernal mettent le cap sur l'Europe. Sur la côte sud du Portugal, l'Algarve leur propose des villages historiques, des plages interminables et une douceur qui se prend fort bien en plein mois de février. Sous le soleil autrement. Dans l'avion menant à Faro, la famille Savoie ne passait pas inaperçue. C'est que la région de l'Algarve, hors vacances et congés scolaires, est surtout fréquentée par des retraités qui fuient l'hiver. Or, Voilà que la région tente de séduire les voyageurs plus jeunes en leur vantant les mérites des beautés des paysages et des plages du sud du Portugal. Citation, toutes les destinations soleil sont touchées par le virus Zika. Fin de citation, lance d'emblée Sarah en posant instinctivement une main sur son ventre, tout près de la porte d'embarquement, avant de monter à bord du vol en direction de Faro. Enceinte de 7 semaines, elle ne veut courir, pardon, aucun risque pour ce troisième enfant à venir. Son conjoint, Éric Savoie, et elle ont décidé de prendre leurs vacances en Algarve avec leurs deux filles, Emma, âgée de 4 ans et demi, et Alice, 2 ans et demi. Citation, c'est vraiment l'agence qui nous a conseillé le Portugal, mentionne pour sa part le père de famille. Moi, j'aime être dépaysé et je n'aime pas les tout inclus, ajoute sa conjointe. L'Algarve répondait donc à leurs critères. Interrogé à l'aéroport de Faro le lendemain matin, le quatuor semblait prêt à partir à l'aventure avec ses 3 grosses valises noires et une toute petite en forme de pingouin. Au menu de la semaine, baignade dans la piscine intérieure de l'hôtel à Albufeira, visite de grottes, observation d'animaux marins, dégustation de bons repas et beaucoup de promenades. Avec Alice dans le porte-bébé et Emma dans la poussette, rien ne semblait pouvoir les arrêter. Et la famille Savoie n'est pas la seule à avoir senti l'appel du sud du Portugal. La région gagne en popularité auprès des voyageurs québécois. Citation, le segment le plus en haut, ce sont les nouveaux retraités en long séjour en Algarve, mentionne Patrick Giguère, directeur de l'agence Voyage Constellation. Il semble que ce groupe soit à la recherche de destinations plus exotiques pour passer une partie de l'hiver. Les coûts, moins élevés qu'ailleurs en Europe, aident beaucoup le Portugal à sortir du lot. Fin de citation. Une autre façon de voyager. D'ailleurs, devant l'engouement pour cette région du Portugal, le coprésident de l'agence Incursion Voyage, Dan Chetri, raconte que l'entreprise a élaboré il y a quelques années un circuit d'une vingtaine de jours à Albufeira, l'une des villes les plus populaires sur la côte. Renée Boisvert, vice-présidente produit chez Air Transat, parle elle aussi d'un engouement pour les voyageurs qui souhaitent effectuer un long séjour. Les gens ont envie d'avoir un peu plus que seulement sol et playa. Ils se disent qu'ils veulent faire autre chose que de se lever à 9 h et d'aller mettre leur serviette sur une chaise. Citation, ils aiment bien vivre comme les locaux, dit-elle. Ainsi, pendant l'hiver, plusieurs voyageurs louent des appartements-hôtels pendant quelques semaines à Lagos et Albufeira pour ensuite rayonner dans toute l'Algarve. Même constat du côté de l'agence Incursion Voyage, spécialisée dans l'organisation des séjours de groupe. Si Incursion Voyage s'adresse essentiellement à des voyageurs âgés de 50 ans et plus qui ont souvent davantage de temps pour de longs séjours, Transat, pour sa part, veut aussi séduire une clientèle plus jeune. Et en faisant la promotion des différentes randonnées ainsi que des nombreux circuits de vélos aménagés. Interrogée à son retour en terre montréalaise après une semaine passée à Albufeira, la famille Savoie semblait avoir apprécié ses vacances. Seul bémol, a confié Sarah, ils ont trouvé dommage que des établissements soient fermés en basse saison. Citation, le retour est difficile, mettons que les paysages sont moins beaux, mentionnait Sarah au téléphone de retour dans la grisaille hivernale. Ça s'est super bien passé. On s'est beaucoup promené à pied. On a fait une excursion en bateau et on a fait un safari. Le programme a visiblement plu à ces deux filles qui ont, selon elles, apprécié le Portugal autant que leurs parents. L'Algarve en 3 actes. Le côté sud du Portugal est bordé de plages où se sont développées des villes et villages qui présentent tous un charme distinct. Nous sommes passés par Albufeira, Portimão et Lagos, 3 tableaux complètement différents d'une région bien difficile à résumer en quelques paragraphes. Alors, tout d'abord, Albufeira se situe à environ 40 minutes pardon, 40 minutes en voiture de l'aéroport de Faro. C'est l'une des destinations les plus fréquentées de la côte. En arrivant sur place, si notre hôtel est situé dans le haut de la ville, on a l'impression de se retrouver dans un endroit bien singulier et surtout, on cherche la mer. Mais une fois que l'on prend la direction de la vieille ville, c'est tout un autre monde qui s'ouvre à nous. Des grands boulevards bordés de chaînes de restauration, on passe aux rues étroites, fréquentées par de nombreux chats et aux petits établissements où le poisson est à l'honneur. Il y a certes des boutiques de souvenirs toutes plus semblables les unes que les autres, mais il suffit de chercher un peu pour dénicher une adresse où l'on trouvera tantôt un petit restaurant caché avec vue sur mer, tantôt une boutique qui vend d'authentiques sardines en boîte, et tout juste à côté de la vieille ville, la plage nous attend. Les rues de la vieille ville où il fait bon se perdre, mais surtout la plage. On peut y marcher sur plusieurs kilomètres. Alors, on nous donne des adresses et on passe aussi à la ville de Portimao. Alors que la majorité des touristes mettent le cap sur Praia da Rocha, nous avons plutôt opté pour l'ambiance port de mer de Portimao au lieu de la pêche à la sardine. En débarquant ici, on profite de la promenade aménagée le long de l'eau. Elle est d'ailleurs fort populaire auprès des cyclistes et des coureurs. Le grand bonheur à Portimao, c'est évidemment de longer la promenade et d'admirer des petits bateaux. Certains pêcheurs ont même recyclé leurs barques afin d'accueillir les visiteurs sur l'eau. En marchant, on peut s'arrêter aux différents panneaux installés, ça et là, pour admirer des photos d'époque et comprendre le dynamisme de cet ancien port de pêche. Et puis, nous passons à la ville de Lagos, destination coup de cœur. Voilà une ville à échelle humaine qui permet de se déplacer aisément à pied entre la plage et le centre historique. La vieille ville offre son lot de monuments, de vieux édifices, d'animations et de petits restaurants. Il y a également la marina, hautement fréquentée par les touristes, où l'on retrouve plusieurs terrasses pour profiter de belles journées. Voilà en gros tout ce qu'on disait dans « Un hiver en Algarve », signé Nathaël Morissette de La Presse.
C'est à cause de ma job, c'est à cause des patrons. C'est à cause de mon ex, c'est à cause des unions. C'est à cause de mon enfance, c'est à cause d'un traumatisme. C'est à cause de mon dos, c'est à cause des rhumatismes. C'est à cause des Anglais, c'est à cause de mes parents. C'est à cause des médias, c'est à cause du gouvernement. C'est à cause des écolos, c'est à cause des artistes. C'est à cause de la malbouffe, c'est à cause de la police.
Dis de quoi tu te plains, avec le ventre plein. Dis-moi à quoi tu jongles quand tu te ronges les ongles. La question se pose, es-tu vraiment ça la cause?
C'est à cause de l'église, c'est à cause de... Humaine. C'est à cause du système, c'est à cause de la machine. C'est à cause des riches, c'est à cause de la Chine. C'est à cause des États, c'est à cause du pétrole. C'est à cause de Satan, c'est à cause de l'école. C'est à cause de la déprime, c'est à cause de la corruption. C'est à cause du cynisme, c'est à cause de la construction. C'est à cause de Pauline, c'est à cause de la réforme. C'est à cause du bassin. C'est à cause du iPhone, c'est à cause de la magouille. C'est à
On vient d'entendre Mes aïeux, un extrait de l'album À l'aube du printemps, cette belle pièce, La Staccose.
La Staccose, et il y en a qui doivent se demander, Staccose de qui aussi, du côté de l'Arabie Saoudite, puisque eh bien, ce sont de mystérieuses sculptures de chameaux qui ont été découvertes dans le désert saoudien. Au milieu d'un désert écrasé par le soleil, Hussein Al-Khalifa, un responsable du patrimoine en Arabie Saoudite, pointe fièrement du doigt des silhouettes de chameaux sculptées dans la roche. Une découverte sans précédent qui reste entourée de mystères. Elles sont une douzaine de sculptures, certaines endommagées par l'érosion ou des actes de vandalisme, et qui dateraient d'environ 2000 ans. Elles ont été découvertes il y a quelques années dans une propriété privée du désert d'Al-Jouf, dans le nord du royaume. Ciselées sur trois éperons rocheux, ces sculptures reflètent un niveau de compétence jamais vu dans d'autres formes d'art rupestre du désert saoudien. Monsieur Khalifa, membre d'une mission archéologique franco-saoudienne, raconte avoir accidentellement découvert les sculptures lorsqu'un ami lui a parlé d'une montagne en forme de chameau. En me rendant sur la zone, j'ai en fait découvert que les chameaux étaient sculptés dans les affleurements de la montagne. C'est vraiment unique, dit-il. Le chameau, appelé vaisseau du désert, est apprécié pour notamment sa viande, son lait et sa capacité de résistance, et est un sujet récurrent pour les sites archéologiques saoudiens. Mais ceux d'Al-Jouf sont différents. Certaines de ces sculptures sont perchées très haut sur les montagnes, laissant penser que des cordes ou des échafaudages ont été utilisés. L'une d'elles en particulier se démarque. Un chameau face à ce qui semble être un âne, une mule ou un cheval, des animaux rarement représentés dans l'art rupestre de la région. Les sculptures en trois dimensions témoignent d'une grande maîtrise au niveau du réalisme et de la taille, explique Maria Gagnin de l'Institut Max Planck des sciences de l'histoire humaine basé en Allemagne. Cela pourrait changer notre compréhension de la dynamique des populations préhistoriques et de leurs traits culturels, dit-elle. Mais le mystère reste entier sur les sculpteurs et les outils utilisés. Monsieur Khalifa relève une proximité avec les Nabatéens, des Arabes nomades, connus pour avoir fondé la ville de Petra dans l'actuelle Jordanie, sculptée dans des falaises de grès. Il s'agit d'une découverte scientifique importante qui nous rappelle l'importante histoire pré-islamique de l'Arabie Saoudite, estime l'archéologue Guillaume Charloux du Centre national de la recherche scientifique en France. Je ne peux qu'espérer que cela nous amènera et amènera les gens à découvrir la variété et la richesse du passé saoudien, ajoute M. Charloux, qui dirige la mission avec M. Khalifa. Les sculptures d'Al-Jouf ont des styles différents, ce qui suggère qu'elles ont été réalisées par plusieurs artistes. Il est possible, estiment les archéologues, que le site ait été un lieu de vénération, un lieu de repos sur une route de caravane ou une frontière délimitant deux régions. Mon hypothèse aujourd'hui est que les sculpteurs étaient des habitants de la région et que le site était un lieu emblématique sur les routes empruntées par les caravanes vers la Mésopotamie, avance M. Charloux. Le désert saoudien est riche en sites historiques, dont certains n'ont été mis au jour que récemment grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Mais pour trouver des réponses à toutes les questions concernant les sculptures de chameaux, un important travail de terrain est encore nécessaire. Plusieurs des sculptures érodées sont difficiles à dater, les archéologues estimant toutefois qu'elles auraient été achevées au cours des premiers siècles avant Jésus-Christ. Si elles datent d'avant la domestication du chameau, elles représentent des spécimens sauvages qui ont peut-être été chassés, et une chasse réussie peut avoir été vitale pour la survie des populations locales. Pour l'instant, les autorités saoudiennes surveillent le site pour empêcher les chasseurs de trésors d'y accéder, et cherche à l'acquérir auprès de son propriétaire privé. Mais d'autres mystères demeurent, comme celui entourant l'un des éperons rocheux qui, vu d'un certain angle, ressemble à un visage humain. Il y a tant de questions sans réponse, reconnaît M. Khalifa.
Les copropriétés gagnent les régions, signé Samuel Larochelle en collaboration spéciale à la presse. Aucun doute, la propriété unifamiliale est reine dans le Bas-Saint-Laurent, sur la côte nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi-Témiscamingue et en Gaspésie. Néanmoins, au cours de la dernière décennie, les copropriétés ont séduit des centaines, voire des milliers d'acheteurs dans ces régions, tour d'horizon. Un marché en évolution. La Gaspésie ne comptait que 30 copropriétés sur son territoire en 2017, mais d'autres régions comme le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean en avaient respectivement 1513 et 2558 selon la Fédération des chambres immobilières du Québec, FCIQ. Deux experts locaux expliquent l'intérêt récent pour les condos. Le 12 février dernier, parmi les quelques 1600 propriétés en vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 188 étaient des copropriétés. Ces dernières ont fait leur apparition discrètement dans les années 90, avant de devenir plus présente entre 2005 et 2012, principalement à Chicoutimi et Jonquière, selon le courtier immobilier Marc Dubois. Durant ces années, il n'y avait pas une grosse différence entre le prix du logement construit durant les années 80 ou 90 et les mensualités d'un condo neuf. Ça a séduit plusieurs personnes seules ou en couple, de jeunes acheteurs ou des baby-boomers à la retraite. En 2017, 65 copropriétés ont été vendues dans le Bas-Saint-Laurent, dont près des deux tiers à Rimouski, une ville où les condos ont connu un élan de popularité entre 2008 et 2010. Un phénomène qui s'explique entre autres par le taux d'inoccupation des propriétés extrêmement faible à l'époque. La situation a eu pour effet de rendre les loyers très dispendieux, souligne le courtier David Boulian. En parallèle, la municipalité a prévu la construction de plusieurs immeubles à copropriété dans son plan d'urbanisme. Ça devenait donc plus intéressant d'habiter dans un immeuble récent ou neuf en tant que propriétaire. M. Boulian observe que les copropriétés attirent les premiers acheteurs qui ne recherchent pas de grandes surfaces habitables, de jeunes retraités qui ne veulent plus faire l'entretien de leur propriété, ainsi que des étudiants qui préfèrent l'Université du Québec à Rimouski ou l'Institut maritime du Québec. Plusieurs jeunes font un investissement immobilier pendant leurs études, dit-il. Cela nous permet de garder le produit des institutions d'enseignement à même Rimouski. Cela dit, les deux courtiers confirment que les maisons unifamiliales demeurent la préférence de la majorité des acheteurs et de loin. Le désir d'espace et d'intimité a encore un attrait important. Les gens vont même refuser d'acheter un jumelé car la proximité avec les voisins est hors de question pour eux, affirme Marc Dubois. Les condos ne sont pas pour eux. Selon David Boulian, les gens des régions passent plus de temps de qualité dans leurs propriétés que ceux des grands centres. Comme ils sont souvent moins sollicités par de longues heures de déplacement pour accéder au travail, à leurs loisirs et aux différents services, ils ont généralement plus de temps pour bénéficier de leurs propriétés et indirectement pour entretenir leur maison et leur terrain. Marc Dubois ajoute que grand nombre de ses clients ont besoin d'espace pour entreposer du matériel de plein air, motoneige, VTT, chaloupe, autocaravane, etc. Le courtier du Saguenay-Lac-Saint-Jean a aussi le sentiment que les copropriétés sont incomprises par plusieurs personnes dans sa région. Il y a une méconnaissance sur les règles des condos qui fait croire aux gens que leurs habitudes de vie leur seront dictées par leurs voisins, sans compter leurs craintes sur le manque d'intimité, explique-t-il. Quand ils rentrent dans nos bureaux pour s'informer au sujet des copropriétés, ils sont terriblement inquiets sur ces points. Mais on prend le temps de les rassurer et on voit une ouverture. En ville ou à la campagne, les habitants des régions excentrées du Québec vivent principalement des maisons unifamiliales, des jumelées ou en appartement, si bien que ceux qui préfèrent acheter un condo surprennent parfois leur entourage. Quatre propriétaires nous peuvent expliquer leurs préférences.
Un peu de romantisme au bord de l'autoroute, et oui, c'est possible. Le mari de Serena Williams a fêté le retour à la compétition de l'ancienne numéro 1 mondiale de tennis en installant 4 panneaux publicitaires géants une quinzaine de jours après que l'Américaine a retrouvé les cours afin de célébrer la meilleure maman du monde. Les uns après les autres, ces panneaux installés le long de l'autoroute 10 en Californie écrivent la phrase « meilleure maman du monde » avant d'afficher une photo de la tenniswoman et de son enfant et du sigle GMOAT pour « Greatest Moma of All Time », la meilleure maman du monde. Un cadeau original de la part de l'entrepreneur américain qui s'est inspiré du film « Three Billboards Outside Ebbing, Missouri » qui était nommé aux Oscars. Je voulais juste lui souhaiter la bienvenue pour son retour au tennis, a souligné Alexis Ohanian sur Instagram et Twitter. Serena Williams, 36 ans, n'a plus disputé un tournoi de la WTA en entier depuis sa victoire aux Internationaux d'Australie fin janvier 2017. La sœur cadette des Williams, qui a remporté 23 titres du Grand Chelem, a repris sa raquette début février en Fed Cup et participe cette semaine au tournoi d'Indian Wells.
Promouvoir les auberges d'ici. Se sentant souvent négligés au profit des grands hôtels, les propriétaires d'auberges auront maintenant les moyens de se regrouper et de faire la promotion de leur offre d'hébergement. Le gouvernement Couillard vient tout juste d'annoncer qu'il verserait 150 000 $ à l'Association d'hôtellerie Québec, l'AHQ, pour la formation d'un comité visant à mettre en place une stratégie pour les mettre en valeur et pour vendre ici et à l'étranger l'expérience qu'elles ont à offrir. Une première rencontre aura lieu en mars. Et je poursuis avec l'information du Nord de Sainte-Agathe qui nous avisait une première au Québec, puisqu'il s'agit d'auberge, le gîte Vitabella. Donc c'était une ouverture d'un premier gîte classé accessible au Québec, c'est-à-dire qu'il était complètement construit pour les handicapés.
Restez avec nous, c'est déjà le temps de la pause musicale, mais ne bougez pas, nous revenons juste après avec Jean-Charles pour encore plus de sujets intéressants et étonnants. A tout de suite.
Child girl. remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Retour en 1970, le temps d'une chanson, Cat Stevens, A Wild World.
Rose comme du chocolat. Mathieu Perrault signait cet article dans la presse le 21 février. Nestlé a lancé le mois dernier le premier chocolat rose naturel, version de la célèbre Kit Kat pour le marché japonais. Il s'agit du premier produit utilisant le cacao Ruby, R-U-B-Y, mis au point par le chocolatier suisse Barik Kalbo et dévoilé en septembre. Voici comment on a vu la quatrième couleur du chocolat. Blanc, noir, au lait et maintenant rose, ou plus exactement couleur rubis. Insiste le chocolatier suisse Barik Kalbo qui veut transformer le marché avec de nouveaux produits haut de gamme ayant une apparence et un goût unique au monde. Nous utilisons un hybride de cacao standard et assez courant, explique Gavin Bound, vice-président à la R&D chez Barik Kalbo. Mais seule une partie de ce cacao contient les précurseurs biochimiques naturels nécessaires pour produire le chocolat rubis. La grande avancée pour Barik Kalbo a été le résultat de recherches en sciences du cacao avec notre partenaire à long terme, l'université Jacobs à Brême, en Allemagne, pour identifier ses précurseurs biochimiques. Ensuite, nous avons identifié ses fèves et organisé l'approvisionnement en grande quantité. L'existence de ces fèves a été découverte de manière fortuite, voilà une dizaine d'années, durant des recherches sur un domaine complètement différent, dit M. Bound, qui travaille en R&D depuis 18 ans. Y a-t-il des obstacles particuliers ? Ça n'a pas été hors de l'ordinaire, que ce soit sur le plan de la mise au point du processus et la préservation de la couleur et de la saveur du rubis, ou des coûts de production, dit M. Bound. Nous ne faisons pas pour le moment de production de masse. Ça va venir plus tard cette année, mais nous croyons que ça va bien se passer. Nestlé bénéficie d'une période d'exclusivité de 6 mois pour ses Kit Kat Rose, selon le magazine Bloomberg Business Week, qui précise qu'après le Japon et la Corée du Sud, elles seront introduites en Australie au printemps, puis en Amérique latine à l'automne. Un magasin Nestlé à Tokyo offrira aussi du chocolat chaud au rubis. Monsieur Bound affirme que Barik Kalbo est en contact avec d'autres chocolatiers pour des produits rubis. Pourrait-il y avoir d'autres couleurs naturelles du chocolat ? Peut-être mauve, rouge ou rose ? Il faut travailler avec les précurseurs de couleurs que nous donne Dame Nature, dit M. Bound. Pas de chocolat vert, donc. Ça n'est pas possible. Mais il est possible que dans l'avenir, on identifie d'autres précurseurs de couleurs. Barik Kalbo, qui a été formé en 1996 par la fusion des chocolatiers français Cacao Barry et Belge Kalbo, prend un soin maniaque à ne pas dévoiler ses secrets. M. Bound se limite par exemple à dire qu'aucun processus agressif ou chimique n'est impliqué dans la fabrication du chocolat rubis et que rien qui sort de l'ordinaire n'est fait lors de la culture et après la récolte de la fève de cacao rubis. Pas de cacao génétiquement modifié donc. Plusieurs sites spécialisés en chocolat, donc The Chocolate Journalist, ont lancé l'hypothèse que la fabrication du cacao rubis s'explique par une absence de fermentation immédiatement après la récolte. Les journalistes qui ont goûté au chocolat rubis lors du premier dévoilement en septembre à Shanghai et à Tokyo à la mi-janvier ont rapporté un fort goût de petits fruits qui pourrait s'expliquer par l'absence de fermentation selon The Chocolate Journalist. Monsieur Baum ne voulait pas non plus dire où sont cultivées les fèves rubis, bien que plusieurs médias, dont Business Week, ont parlé de la Côte d'Ivoire, de l'Équateur et du Brésil. La presse n'a pas non plus pu s'entretenir avec Matthias Ulrich, microbiologiste de l'université Jacobs à Brême, qui est responsable du partenariat avec Barry Calbo. Monsieur Ulrich n'a pas voulu donner d'entrevue sans l'aval de Barry Calbo, qui a préféré qu'elle ait lieu avec Gavin Bound, son vice-président à la recherche. L'objectif de Cometa, C-O-M-E-T-A, le projet de recherche conjoint entre M. Ulrich et Barry Calbo, est de faire un atlas moléculaire de la fève de cacao d'ici 2020. Dans un article publié sur le site de Barry Calbo, un M. Ulrich explique que Cometa a déjà permis de déterminer quelles protéines et quels lipides sont dégradés durant la fermentation de la fève, des milliers de nouveaux polyphénols, antioxydants, qui pourraient expliquer les effets bénéfiques que certaines études attribuent au chocolat, ont aussi été découverts. Barry Calbo, qui a 28 centres de R&D dans le monde et des partenariats avec 29 autres instituts de recherche, planche également sur l'amélioration de la fermentation de la fève de cacao, la prévention du blanchiment du chocolat, ainsi que l'étude des impacts du chocolat sur la santé. Outre le cacao, M. Ulrich de l'Université Jacob a plusieurs autres projets, dont le développement d'antibiotiques et de médicaments anti-cancer à partir de molécules du rhododendron et l'étude de l'impact de l'exploitation minière sous-marine sur les microbes des fonds marins. Alors là, on nous donne un peu 3500 ans d'histoire sur le chocolat. Donc, succinctement, les premiers consommateurs de chocolat, de cacao ont été les Olmèques, Mayas et Aztèques d'Amérique centrale. La colonisation européenne a fait traverser la passion du chocolat de l'autre côté de l'Atlantique. Voici les principales étapes de cette histoire. Entre moins, c'est-à-dire 1400 et 1100 avant Jésus-Christ, du cacao est consommé par les Olmèques. Selon une étude de poterie d'un site archéologique au Honduras publiée en 2007 par des archéologues de l'Université de Pennsylvanie. En l'an 200, les Mayas ont un dieu ou une déesse du chocolat, Ecchuach. En 1519, le roi aztèque Montezuma fait goûter au conquérant espagnol Hernán Cortés une boisson de chocolat, probablement amère. En 1528, Cortés rapporte des fèves de cacao en Espagne. En 1590, première boisson de chocolat sucré concoctée par des moines espagnols. En 1728, la famille Fry, F-R-Y, construit la première usine hydraulique de chocolat en Angleterre, ce qui permet d'abaisser le coût des boissons. En 1765, James Baker construit la première usine de chocolat du Nouveau Monde au Massachusetts. En 1828, le chimiste hollandais Conrad van Houten invente le produit de chocolat. En 1847, la famille Fry toujours lance la première barre de chocolat. En 1867, le pharmacien suisse Henri Nestlé invente le chocolat au lait d'un brun moins foncé. En 1910, la culture du cacao est transposée en Asie et en Afrique dans les colonies européennes. En 1936, Nestlé lance le premier chocolat blanc, la barre Galak. En 2012, le chocolatier français Valrhona lance le Dulce, un chocolat au lait blond. Et voilà, c'était le chocolat rose.
Après le chocolat, je vous parle d'une personne qui a fait fondre le cœur de bien des Italiens, puisque c'est une Italienne qui a prouvé qu'il était possible de devenir célèbre à 93 ans et en plus cerise sur le gâteau au chocolat peut-être, pour de bonnes raisons. Une nonagénaire de Vénétie qui est partie pour 3 semaines de bénévolat dans un orphelinat au Kenya est devenue le symbole de l'altruisme. Il aura fallu 5 lignes, c'est tout, postées sur Facebook, avec 2 photos, par sa petite fille, pour que Mama Irma deviennent une source d'inspiration pour une bonne partie des Italiens. Une main tirant une petite valise rouge, l'autre s'appuyant sur sa canne, cette vieille dame est partie lundi 19 février pour réaliser 3 semaines de bénévolat dans un orphelinat au Kenya. Du haut de ses 93 printemps, elle s'est rendue à plus de 5000 km de sa Vénétie pour aider son prochain. Émue, sa fille lui a donc demandé de prendre la pause dans l'aéroport avant d'embarquer dans l'avion, et sa petite fille, Elisa Coltro, a posté le message suivant. Voici ma grand-mère Irma, une petite jeune de 93 ans, qui est partie pour le Kenya cette nuit, pas pour un village touristique où elle serait servie et honorée, mais pour aller dans un village d'enfants, dans un orphelinat. Je vous la montre parce que je pense que nous devrions tous garder un peu d'inconscience pour vivre et non pour survivre. Regardez-la, mais qui peut l'arrêter ? Je l'aime. En l'espace d'une semaine, le message a été partagé plus de 20 000 fois, liké près de 70 000 fois et a suscité des centaines de commentaires enthousiastes. La presse italienne a, elle aussi, craqué en tombant sur la belle histoire de Mamma Irma. Le quotidien La Repubblica s'est donc intéressé à la vie de la nonagénaire et a questionné ses proches. « Je n'imaginais pas que cela aurait provoqué tout cela », explique sa petite fille, qui redit toute sa fierté à propos de sa grand-mère, devenue veuve à l'âge de 26 ans seulement et qui a élevé ses 3 enfants seuls. Après avoir longtemps soutenu un orphelinat fondé au Kenya par un missionnaire originaire de sa région, près de Venise, la vieille dame a décidé d'aller participer au travail sur place, accompagnée de sa fille. Cette année, elle a décidé que cela ne suffisait plus d'aider simplement financièrement. Elle voulait se rendre utile, raconte Elisa Coltro à La Repubblica. Samedi 24 février, la petite fille de Donna Irma a publié une nouvelle publication pour remercier tout le monde pour les marques d'affection reçues ces derniers jours. « Comme vous le voyez, la nonna va bien », assure-t-elle. Ma grand-mère a toujours aimé la vie et ne s'est jamais laissée arrêter par quoi que ce soit. Elle a dédié son existence à sa famille et a aidé ses proches. Pour moi, elle a toujours été un exemple, a-t-elle raconté. Un modèle qui a porté ses fruits puisque Elisa Coltro apporte elle aussi son aide aux autres. Depuis 2 étés, elle va aider les réfugiés syriens dans les camps en Grèce. Je suis allée à Salonique et à Athènes en 2016 et 2017. J'espère qu'on pourra y retourner cette année. Une belle histoire et une belle famille qui dénote avec l'atmosphère un petit peu tendue qui règne en Italie, avec les questions entourant les migrants qui arrivent en Italie et puis les élections législatives qui ont lieu en ce moment. Un peu de baume au cœur, donc merci à la famille.
Partir à l'aventure, s'émerveiller au Québec. Charles-Édouard Carrier, en collaboration spéciale à la presse, publié le 2 mars. Des Globetrotters nous racontent un voyage inspirant cette semaine. Marcel Mueller, passionné de photographie. Marcel Mueller, 49 ans, c'est un voyage au Nunavik en 2015 qu'il va nous raconter. Durée 1 mois. Par passion pour la photographie et un intérêt hors du commun pour la diversité des cultures du monde entier, Marcel Mueller a visité plus de 75 pays. Après plusieurs tours du monde, c'est un voyage au nord du Québec qui l'a marqué profondément. Question, comment a germé l'idée de ce voyage et pourquoi avoir choisi cette destination ? C'était dans un contexte professionnel, j'ai été contacté par un opérateur de tours guidé qui souhaitait s'implanter au Nunavik et développer des voyages photographiques pour aller voir les caribous et les ours polaires. Il m'a invité à me joindre à lui dans ce projet, j'y allais pour accompagner les participants et donner des ateliers photos sur place. Aviez-vous des attentes ou des peurs face à ce voyage avant le départ ? Très honnêtement, ça n'avait jamais été un endroit auquel je rêvais. Ce n'était pas comme l'Himalaya, les déserts, l'Asie ou l'Australie, ce n'était pas une destination sur ma liste. Alors, contrairement à bien d'autres voyages, je n'avais pas d'attente, quoique, peu importe le voyage, il y a toujours cette flamme qui s'allume en soi avant de partir. Cette nervosité d'aller vers l'aventure est toujours là. Si vous aviez à décrire un moment fort de ce voyage, un moment charnière, quel serait-il ? 2 moments, les aurores boréales et le loup. Pour le premier, on avait placé les appareils sur les trépieds, on voyait valser les aurores au loin, puis soudainement, au-dessus de nos têtes, Le ciel au grand complet s'est couvert de couleurs. Je photographiais sans arrêt jusqu'à ce que je saisisse l'intensité de ce que je vivais. J'ai abandonné l'appareil photo, je me suis couché par terre, je hurlais, je n'avais jamais senti une énergie comme celle-là, c'était indescriptible. Puis le loup. On avait fait 2 heures d'hydravion à partir de Kujuak, puis un vol d'hélicoptère vers la baie d'Ungava, non loin de Kwaktak. On cherchait des bœufs musqués. Après une nuit en tente, je me lève le premier et sors préparer le café. Dernière mois, à moins de 25 mètres, un loup de la toundra. J'ai figé, je l'ai longuement regardé, je me suis assis par terre et on s'est fixés tous les deux pendant de longues minutes. J'ai vécu beaucoup de choses impressionnantes avec les animaux, surtout en Afrique, mais jamais quelque chose d'aussi fort que ça. En quoi ce voyage a-t-il été inspirant pour vous? Chaque voyage a le potentiel d'émerveiller, le pouvoir de nous faire évoluer. C'est fou à dire, mais on dirait qu'avec les années, ça a toujours été d'aller toujours plus loin, de faire des trucs exceptionnels, de repousser les limites, de me dépasser, de prendre la meilleure photo. Ce voyage-là m'a connecté à qui je suis, d'où je viens. D'accord, je suis né en Suisse et j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, mais je suis un Québécois dans ma façon de voir les choses, comme dans mon accent. Ce voyage m'a reconnecté au Québec. Il y a très peu d'endroits sur la planète où, pendant des centaines de kilomètres, il n'y a pas de route. Dans le Sahara, c'est immense, c'est vide, c'est le désert, mais les Touaregs ont des pistes. En Amazonie, il y a les rivières que les locaux utilisent pour se déplacer, mais dans le nord du Québec, on comprend rapidement que c'est l'une des dernières frontières du monde, l'un des rares endroits où il n'y a pas d'accès routier. Nous avons une chance unique d'avoir si près de nous toute cette beauté sauvage, à la fois vierge et fragile. Selon vous, est-ce que l'idée de partir à l'aventure est suffisamment encouragée aujourd'hui? J'encourage les gens à voyager, à partir à l'aventure. J'ai fait le tour de plusieurs écoles secondaires au Québec pour des présentations devant les élèves et les parents. On sent qu'il y a un grand intérêt à découvrir le monde. On évolue. Ce lundi, je m'interroge aussi sur la façon dont on voyage. Quel impact le voyage d'aventure peut-il avoir sur les sociétés, sur les gens qui voient soudainement débarquer les touristes, sur l'environnement, le phénomène des selfies, l'égocentrisme, le besoin de dire « regardez-moi », le besoin de montrer que l'on est ici ou là. Quelle est la réelle motivation derrière ça? Je n'ai pas de réponse, mais je crois qu'on devrait y réfléchir.
Jamais la voir. Tout le monde pleurait pour éclaircir, mais toujours brouillard. Flic-floc, la pluie dégringolait sur les trottoirs. Paris gueulait tous les soirs. Cocotier, cocotier bananier, palais duvier, requin dormeur, poisson volant, chapeau de paille, ce que vous me manquez. Capucines, pauvre citadin métropolitain, rat des villes, toujours courir, jamais sourire, si magie, être là-bas, là-bas, dans les îles. Cocotier,
cocotier bananier, palais du vieil, requin dormeur, poisson volant, chapeau de paille, ce que vous me manquez, yeah, vous papaye, ce que vous me manquez.
Cocotier bananier, Louis Chédid.
Et après cette pause festive, un peu sérieux, parlons de politique, et ça se passe en Autriche. En Autriche, on peut adresser un doigt d'honneur et dire « fuck » à un homme politique, fût-il vice-chancelier, si cela est argumenté. Ainsi en a décidé la cour d'appel de Vienne, qui a invoqué la liberté d'opinion. Saisi par le dirigeant d'extrême droite et vice-chancelier Heinz Christian Strache, qui avait attaqué un groupement d'extrême-gauche pour insulte publique après avoir été invectivé lors d'une manifestation, la cour a confirmé un jugement de première instance qui avait débouté le plaignant. Dans un jugement rendu mercredi, les juges ont souligné que les rejets d'un dirigeant politique pouvaient être exprimés de façon provocatrice et choquante et que cela représentait un élément fondamental de la liberté d'opinion. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et réalisée lors d'une manifestation en octobre, des militants de l'organisation d'extrême gauche Linkswende Jetzt, à gauche toute maintenant, littéralement traduit, avaient détaillé toute une série de raisons, selon eux, de dire « fuck Strache », doigt d'honneur à la pluie. Le groupuscule a salué jeudi une victoire pour la liberté d'opinion et pour la liberté de la presse, et estimé que désormais, tout discours politique pouvait intégrer la phrase « je dis fuck à Strache parce que ». En France, un manifestant de 57 ans avait été condamné en 2009 à 30€ d'amende pour offense au chef de l'État après avoir brandi une affichette restée célèbre « Casse-toi, pauvre con » au passage du cortège du président de l'époque, M. Nicolas Sarkozy. La Cour européenne des droits de l'homme avait toutefois jugé en 2013 que la France avait violé la liberté d'expression avec cette condamnation. Rassurez-vous donc, il est encore possible d'insulter les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord.
Tourisme, 41%, c'est la proportion de Québécois qui ont l'intention de faire un voyage comprenant au moins une nuitée pendant la semaine de relâche, selon un sondage réalisé par le ministère du Tourisme du Québec, signé Nathaël Morissette de la presse. Et je continue avec la guerre des prix de base à propos des transporteurs aériens. Air Canada et WestJet se sont lancés dans une guerre de prix en proposant à une semaine d'intervalle des nouveaux tarifs de base. Chez Air Canada, ce nouveau tarif économique de base est offert pour certains vols intérieurs. Aucun bagage en soute inclus, aucun changement ou annulation autorisé, pas d'accumulation de miles aéroplan. WestJet a répliqué avec son tarif écono, entre parenthèses, tarif plus bas, à ne pas confondre avec son tarif écono tout court. Le premier n'est en effet offert que pour certains itinéraires et pour certains vols, mais pas uniquement au Canada. Le billet n'est pas remboursable et ne peut être modifié. Les places sont assignées et l'enregistrement seulement et aucun dollar WestJet n'est attribué. Signé Stéphanie Morin, La Presse.
Et on finit avec une de mes petites questions existentielles. Qu'arriverait-il si la gravité disparaissait ? En raison de la rotation de la Terre, les lois de la physique garantissent qu'une perte de gravité ne pourrait jamais se produire. Mais si cela devait avoir lieu, nos corps changeraient, car ils se sont adaptés à l'état gravitationnel pendant des millions d'années d'évolution. Comme c'est le cas pour les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, nous perdrions notre masse musculaire, notre sens de l'équilibre changerait et notre taux de globules rouges chuterait. Nos blessures prendraient donc plus de temps à guérir et notre système immunitaire perdrait de sa force. Avouez qu'on est bien avec la gravitation. Ce qui conclut cette émission, voilà déjà une heure passée en notre compagnie. Ce fut fort plaisant, je tiens à remercier mon compagnon du jour, merci Jean-Charles Algan. Nous retrouverons la semaine prochaine, je crois.
Oui, bien sûr, si tout va bien.
Remerciements également à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et les choix musicaux, comme d'habitude, de grande qualité. On retrouve tout de suite après dans le quotidien des quotidiens, si je ne me trompe pas, avec notre ami François Brodeur, qui va être là d'un instant à l'autre. Ne bougez pas sur Canal M.